Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Menachot, page 70 d'Af Ayin. Bonne écoute et bon limoud.
Dans le cas où l'aurait moissonné beaucoup des pays de blé, mais qu'il n'a pas battu, d'Amdinhu, il a dû donc évaluer la quantité de graines dans ses épis, d'Asrinhu, et il a prélevé la dîme en conséquence. Véchatlinhu, puis il a à nouveau replanté les épis, Véhosifalehu, et ils ont ajouté, c'est-à-dire ils ont continué à grandir. Alors, Imtim Tselomar, si tu dis Lo Azlinan Batar Ikar, que nous ne suivons pas l'origine du fruit, lorsqu'il s'agit d'être plus strict, par exemple dans l'autre cas, où lorsque nous ne suivons pas l'origine du fruit, veto sefet baye souré, il faudra prélever la dîme sur le surplus, sur ce qui a grandi, sur ses épis. La question se pose, ikar mai, qu'en est-il pour l'origine du fruit? Est-ce qu'il faut prélever la dîme sur tous les épis, même sur la partie qui avait poussé auparavant, et donc dont on avait prélevé la dîme, ou non? C'est-à-dire, la question se pose au contraire maintenant, est-ce que le surplus annule même l'origine du fruit, dans le cas où il faut être plus strict? Amar le Abaye, Abaye lui a demandé, Maishana mikol chite vesare de alma, quelle différence y a-t-il entre ce cas et toutes les graines de blé et d'orge, en général, qu'on sème, alors qu'avant de les avoir semées, évidemment, on a prélevé la dîme, et quand même, il faut prélever la dîme sur toute la récolte, sans tenir compte de la proportion des graines dans ce qui a poussé. Ici aussi, il devrait en être de même. Amarle, Rabba lui répond, d'abord chez Aro Kale, lorsqu'il s'agit de quelque chose dont la graine se désintègre, l'homme Ibayali, je ne me pose pas de questions, car il est évident que ce qui a poussé par la suite est entièrement nouveau, il n'y a rien qui reste des graines dont on avait prélevé la dîme. Il est donc évident qu'il faudra prélever la dîme sur toute la récolte. Et là, Kikam Ibayali, plutôt, quand est-ce que je me pose la question, d'abord chez Enzaro Kale, lorsqu'il s'agit de quelque chose dont la graine ne se désintègre pas, par exemple, dans notre cas, où il a planté ou repiqué l'épi et qui a continué à pousser. Mai, qu'en est-il? La Gemara demande, Tifshotle, Meha, il pourrait trancher sa question à partir de l'enseignement suivant, Damar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Litra Batsal Shetikno, une livre d'oignons qu'il a arrangé, c'est-à-dire dont il a prélevé la dîme, Vezaro, et il les a plantés, Mit Aser le Fikulo, lorsqu'il récolte les oignons, il faudra prélever la dîme sur toute la récolte, donc l'oignon d'origine inclus. Nous voyons donc que même lorsqu'il s'agit de quelque chose dont la graine ne se désintègre pas, comme les oignons, quand même il faut prélever la dîme sur toute la récolte. L'Agma répond, Hatam, là-bas, en ce qui concerne les oignons, Hainuzriato, c'est la manière normale de les semer, il est donc évident que pour toute nouvelle récolte, il faut prélever la dîme sur toute la récolte. Haha, mais ici, dans notre cas, où il a repiqué l'épi, Lav Hainuzriato, ce n'est pas la manière normale de le semer. Il est possible donc que nous tenons compte de la graine ou de l'épi d'origine. Il ne faudra prélever la dîme que sur le surplus, ce qui a poussé par la suite. C'est une question qui reste sans réponse. Amar le Rabbi Hanina Barmanyumi le Abaye, nous lisons selon la Shitam Kubetzet. Atzitz she'eno nakuv mi lo nakuv mahu. Peut-on utiliser ce qui a poussé dans un pot qui n'est pas troué pour prélever la dîme sur ce qui a poussé dans un autre pot qui n'est pas troué? Car un pot non troué est considéré comme étant entièrement détaché de la terre. Ce qui a poussé n'est pas concerné minatora par l'obligation du prélèvement de la dîme. Cependant, les chachamim ont rendu cela obligatoire. Nous lisons toujours selon la Shitam Kubetzet. La question se pose, quelle est la question? Halonakuv, pourtant, les deux pots ne sont pas troués. Ils ont donc le même statut d'obligation de prélèvement de la dîme. Il n'y a donc aucun problème. Dilma, peut-être, Chazar Venikvo Kaamart, est-ce que tu parles d'un cas où quelque chose a poussé dans un pot non troué, puis il a troué le pot, et ce qui s'y trouvait a continué à pousser? Dès lors, ce qui a continué à pousser, au moins, est concerné minatora par l'obligation du prélèvement de la dîme. Et la question se pose, comment peut-on prélever la dîme sur ce qui a poussé dans ce pot? Si on utilise ce qui a poussé après qu'on a trouvé le pot pour prélever la dîme, sur ce qui a poussé avant qu'on a trouvé le pot, c'est pas bon, car ce qui a poussé après qu'on a trouvé le pot est concerné minatora par l'obligation du prélèvement de la dîme, tandis que ce qui a poussé avant qu'on ait trouvé le pot n'est concerné que midérabanan par cette obligation. On ne peut pas prélever la dîme en utilisant quelque chose dont l'obligation du prélèvement de la dîme est minatora pour le prélever sur quelque chose dont l'obligation du prélèvement n'est que midérabanan. Donc la question se pose ici, est-ce que ce qui a poussé par la suite annule et assimile le fruit d'origine ou ce qui a poussé à l'origine? Et donc, tout ce qui a poussé dans ce pot est dès lors concerné minatora par l'obligation du prélèvement de la dîme, on peut donc la prélever sans problème, ou bien seul ce qui a poussé par la suite est concerné par l'obligation du prélèvement minatora. En quelque sorte, il s'agit donc de la même question que nous avons vue précédemment. Alors Abaye lui répond, « Haha, chadazriahi, ici, il n'y a eu qu'une seule fois des semailles, donc ce qui a poussé dans ce pot n'a été semé qu'une seule fois, irburehu deka mechabra veola, et il a été uniquement attaché petit à petit à la terre. En effet, lorsque le pot a été trouvé par la suite, tout ce qui se trouvait dans ce pot est considéré dès lors rattaché à la terre, il a donc été planté sur terre. Puisqu'il s'agit de la même semence qui a été rattachée par la suite à la terre, il est évident que minatora, tout ce qui a poussé dans ce pot est concerné par l'obligation du prélèvement de la dîme. Hatam, mais là-bas, en ce qui concerne la question que nous avons vue précédemment, de l'épi qui a été coupé puis a été repiqué, shtezriot nimhu, il y a eu deux fois la semence, donc deux fois cette plante a été semée ou repiquée, la deuxième fois n'ayant rien à voir avec la première. Il est donc possible de dire que ce qui a été exempté par le prélèvement de la dîme à la suite de la première fois que l'épi a été coupé ne sera plus concerné par le prélèvement de la dîme lorsque cet épi sera repiqué. Donc en conclusion, la question posée par Rabba reste sans réponse, tandis que celle posée par Rabbi Hanina Bar Manioumi est répondue. Il est évident qu'il faudra prélever la dîme minatora sur tout ce qui a poussé dans le pot, même sur ce qui a poussé avant que celui-ci a été troué. Ba'e Rabbi Abahu. Rabbi Abahu s'est posé la question suivante. Shibolet Shemarcha Bekeri, un épi qui a été coupé, mais qui n'a pas été battu. Lorsque le propriétaire a rassemblé tous les graines qu'il a battues, cet épi a été aussi lissé dans le tas de graines, et il est donc devenu concerné minatora par le prélèvement de la dîme et de la trouma. Veshatla, puis il l'a repiqué. Bekara aleh Hashem bimchubar, puis il l'a nommé en la désignant comme trouma, alors que celle-ci avait pris racine. Mahu, qu'en est-il? Il précise qu'Ivan de Marcha, puisque cet épi a été lissé dans le tas de graines, tablala, cet épi a eu le statut de tevel, donc il a été concerné minatora par l'obligation du prélèvement de la dîme et de la trouma. Kikara aleh Hashem, lorsqu'il l'a nommé et l'a désigné comme trouma, prélèvement destiné au Kohen, kachala, cet épi a été sanctifié, donc est devenu trouma. Odilma, ou bien nous disons qu'Ivan de Chatla, puisque cet épi a été repiqué, Pakale Tivlamina, ce statut de Tevel, de produit dont l'obligation du prélèvement de la Touma et de la Dîme est Minatora, a disparu. Cet épi ne pourra donc plus être désigné comme Touma. Amrele, Rabbanan le Abaye, les Chachamim ont posé la question à Abaye, Imken, si c'est ainsi, s'il est possible de désigner un épi qui a été repiqué comme Touma, Matsinu Touma Bemchubar la Karka. Nous avons trouvé un cas où il existe de la trouma, donc qui est le prélèvement destiné au Kohen, alors que le fruit ou l'épi en question est rattaché à la terre. Betnan, pourtant, il est enseigné dans une Mishnah, voire le Mitzpeh Etan, l'omatsinu trouma bemchubar la karka. Nous n'aurons pas trouvé de cas où il existe de la trouma, qui est le prélèvement destiné au Kohen, alors que le fruit ou l'épi en question soit attaché à la terre. Amarle, Abaye, leur a répondu, kitanyahi. Quand est-ce que la Braïta a enseigné cela? Donc, qu'il n'existe pas d'autre trouma rattaché à la terre. Les inyan ichyuve mita v'chomesh. C'est uniquement ce qui concerne le fait de condamner la personne qui en a consommé à la mort par châtiment divin et à payer intégralement cette trouma et un cinquième en plus s'il l'a consommé par mégarde. Sur cela, la Braïta a dit qu'il n'existe pas de cas où ces sanctions puissent être appliquées s'il s'agit de Trouma attaché à la terre. De Italish ve'achil, car s'il l'a détaché et il l'a consommé talujou, il s'agit donc d'une Trouma détachée. Et il est évident qu'on pourra appliquer cette sanction. De Igachin ve'achil, mais s'il s'est couché, pour ainsi dire, par terre et il l'a consommé ainsi alors que cet épi ou ce fruit en question était attaché à la terre, Batla da'ato et tsel kol adam, son intention de considérer cela comme une manière de manger est annulée par rapport à la vie de tout le monde. Autrement dit, puisque c'est une manière anormale de manger quelque chose, on ne pourra pas le condamner pour cela. Mais en fait, il n'est pas dit dans cette braïta qu'il n'y a pas de cas où on puisse trouver de la touma attachée à la terre. Rabbi Abaou a donc eu raison de poser la question qui d'ailleurs reste sans réponse. La Gemara demande, ou Maïshana, quelle différence y a-t-il entre ce cas et Midekatav Apinkasa de Ilfa, et le cas qui est écrit dans le carnet de Ilfa, qui était un sage de l'époque? Il est écrit ainsi, Betse Nivlat Haof Ataor, des œufs d'un cadavre d'un oiseau permis à la consommation, Miktatan Bachutz, dans la situation où une partie de ces œufs sont à l'extérieur, c'est-à-dire ils ont commencé à sortir avant la mort de cet oiseau, ou Miktatan Bifnim, et une autre partie est encore à l'intérieur, Mi Bifnim, s'ils les mangent de l'intérieur alors qu'ils sont encore attachés à l'oiseau, Metamin Begadim Abetablia, le fait de les avoir consommés ainsi transmet l'impureté aux habits qu'ils portent au moment où ils avalent ce qu'ils mangent, c'est-à-dire nous considérons qu'il a consommé du cadavre d'un oiseau pur, et c'est ainsi qu'il transmet l'impureté. En effet, il ne transmet que l'impureté au moment où il avale ce cadavre ou une partie de ce cadavre, et à cet instant, les habits qu'il porte deviennent impurs, mibachutz, mais s'il mange la partie des œufs qui se trouve à l'extérieur de l'oiseau, nous considérons qu'il n'a pas consommé de la viande d'un cadavre d'un oiseau, mais plutôt simplement des œufs. En metamin begadim abetablia, le fait d'avoir mangé ses œufs ne transmet pas d'impureté aux habits qu'il porte au moment où il avale. Car seule la viande du cadavre de l'oiseau transmet l'impureté et non pas les œufs. Nous voyons donc que le fait de consommer quelque chose qui est attaché alors qu'en général on le mange détaché comme les œufs est considéré comme étant une manière normale de manger, contrairement à ce que nous avons dit précédemment. L'Agma répond, Talouche. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de détaché comme un oiseau à vider, il peut arriver que des gens mangent l'œuf ainsi alors qu'il est encore attaché à l'oiseau. Mais lorsqu'un aliment est attaché à la terre, comme une plante ou un épi dont nous avons parlé auparavant, les gens n'ont pas l'habitude de le manger ainsi. C'est pour cela que nous considérons le fait qu'une personne ait mangé de la trouma attachée comme une manière anormale de manger, on ne pourra pas le sanctionner pour cela. Amar Rav Tavyumi Bar Kisna Amar Shmuel, Hazorea Kilayim Be'atzitz She'enno Nakuv, celui qui sème un mélange de graines dans un pot qui n'est pas troué, Assur, c'est une chose interdite, Midrabanan. En effet, il est interdit de semer ensemble différentes sortes de graines dans un terrain, dans de la terre, c'est interdit Minatora, mais ici nous parlons d'un pot non troué, Minatora. Nous considérons pas qu'il l'a semé. C'est une interdiction donc, midrabanan. Amar Abaye, Bishlama, on comprend bien cet enseignement de Shmuel, Yashmeinan, Lokemakat Mardut midrabanan, si nous avait enseigné que celui qui agit ainsi sera condamné à une peine de flagellation, midrabanan, pour avoir transgressé une interdiction, midrabanan, Shapir. On aurait compris ce qu'il a enseigné de nouveau. Et là, Assur, mais le fait de nous avoir enseigné qu'il est interdit de le faire, Maikamashmalam, que nous a-t-il enseigné de nouveau, Demi Derabanan Haviazria, que le fait d'avoir semé dans un pot non troué est considéré comme avoir semé Miderabanan? Tanina, ceci a été enseigné clairement dans une Mishnah, dans Maseret Dmai Perekhe Mishnayud. En effet, la Mishnah dit, Taram Mishéno Nakuv Al Hanakuv, celui qui a effectué un prélèvement de Trouma en utilisant des produits qui ont poussé dans un pot non troué, et ce, sur des produits qui ont poussé dans un pot troué, dont l'obligation de prélèvement est Minatora. Trouma, ce prélèvement est valable, Verzorbitrom, cependant, il devra à nouveau effectuer un autre prélèvement, car ce qui a poussé dans le pot non troué n'est pas concerné par l'obligation de prélèvement Minatora. On ne pourra pas utiliser ces produits Minatora pour exempter ce qui a poussé dans un pot troué. Cependant, Midérabanan, ce qu'il a désigné comme Tourma, a le statut de Tourma, car Midérabanan, ce qui a poussé dans un pot non troué, est considéré comme ayant poussé sur terre. Nous voyons donc dans cette Mishnah que ce qui a poussé ou ce qui a été semé dans un pot non troué est considéré comme étant semé et poussé sur terre. Finalement donc, on ne voit pas ce que Shmuel a enseigné de nouveau. Nouvelle Mishnah. Hachitim v'asorim, le blé, l'orge, v'akousmin et le potre, v'ashibolet choual et l'avoine, v'ashifon et le seigle, harelu chayavim bechala, sont concernés par l'obligation du prélèvement de la chala, qui est un prélèvement sur la pâte. Mitztarfin zeimze, et ils s'associent ensemble pour former la quantité nécessaire pour une quantité de céréales. La Gemara expliquera. V'asorim bechadash, nous lisons selon la Shita Mukubetset, milifne haomer. Et ces céréales en question sont concernées par l'interdiction de consommer de la nouvelle récolte avant le Homer, la Gemara expliquera. Ou Miliktsor, nous lisons toujours selon la Shetam Kubetset, Milifne à Pessah, et il est interdit d'en moissonner avant Pessah. C'est-à-dire la moisson de la nouvelle récolte était interdite jusqu'à ce qu'on moissonne le nécessaire pour l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, qui était effectué en général immédiatement à la sortie du premier jour de Yom Tov. Donc, lorsqu'on dit qu'il est interdit de moissonner de la nouvelle récolte avant Pessah, parce que immédiatement à la sortie du premier jour de Pessah, il était déjà permis de le faire si on avait déjà moissonné le nécessaire pour l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Im hishrishu kodem laomer, ceux qui a pris racine avant l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, haomer matiran, l'offrande de l'omer les permet à la consommation, veim lav, mais sinon, s'ils n'ont pas pris racine avant l'offrande de l'omer, asurin ad sheavo haomer abba, ceux qui poussent par la suite, donc de ce qui a été semé, sera interdit jusqu'à l'offrande publique du deuxième jour de Pessah de l'année suivante. La Gemara dit là-dessus, Tana, il est enseigné dans une braïta, Kousmin, l'épeautre, Minchitin est une sorte de blé, Shibolet Choal Veshifon, l'avoine et le seigle, Min Seorim, sont des sortes d'orge. C'est-à-dire en ce qui concerne l'obligation de prélever la chala. Pour que cette obligation prenne effet, il faut avoir fait une pâte avec un volume d'un cave et un quart de farine, soit à peu près 3 kilos de farine. Alors, si une personne a fait plusieurs petites pâtes, chacune avec la farine d'un céréal différent, ces pâtes s'associent pour former la quantité nécessaire pour le prélèvement de la chala, à la condition qu'il s'agisse du même type de céréales. C'est donc cela que la Breita nous enseigne, que la farine de blé ne s'associe qu'avec un céréal de même type, donc l'épeautre, mais avec les autres sortes, l'avoine, le seigle et l'orge, la farine de blé ne s'associe pas, tandis que la farine d'orge peut s'associer avec toutes les sortes, à part la farine de blé. Il en ressort donc que l'épeautre est en fait un type de céréales intermédiaire entre le blé et l'orge, et pourra s'associer soit avec le blé, soit avec l'orge. Alors, la Gemara traduit maintenant en araméen, Kousmin.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Ayin Amud Bet. Gulba, il s'agit d'épeautre. Chiffon, Dishra, il s'agit de seigle. Shibolet Choual, c'est Shibolet Ta'ala, il s'agit donc d'avoine. L'Agmara constate Hane'in, cela oui, donc ces cinq sortes de céréales sont concernées par l'obligation du prélèvement de la chala. Orez Vedochan, tandis que le riz et le millet, l'eau, non, ne sont pas concernés par cette obligation. L'Agmara demande, mais nan emile, d'où sait-on ces choses-ci? L'Agmara répond, Maresh Lakish, Atia Lechem, Lechem Mimatsa, nous l'apprenons par le moyen d'une Xera Shava, dont le support est le terme de Lechem, pain, employé à la fois ici concernant l'obligation du prélèvement de la chala et concernant l'obligation de consommer la matza à Pessah. En effet, Ktivacha, il est écrit ici concernant l'obligation du prélèvement de la chala dans Bamidbar Tetvav, Behaya Bacholchem Milechem Aretz, et il sera lorsque vous mangerez du pain de la terre. Uktivatam, il est écrit là-bas, dans Dvarim Tetzain, concernant l'obligation de consommer la matza à Pessah, Lechem Oni, du pain de misère. De même que la matza ne peut être constituée que par de la farine de ces cinq céréales. Il en est de même pour l'obligation du prélèvement de la challah. La Gemara demande de Hatam Gufa Menalan, et là-bas, concernant l'obligation de consommer la matzah Pessah, d'où le sait-on qu'il ne peut s'agir que de farine provenant de ces cinq céréales. La Gemara répond, Amaresh Lakish, Vechen Tana de Rabbi Ishmael. Il est enseigné aussi cela dans une braïta qui a été rédigée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, Vechen Tana de Rabbi Eliezer ben Yaakov, et ceci a été enseigné aussi dans une braïta qui a été rédigée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amakra, le pasouk dit, toujours dans Dvarim Tetzayin, concernant l'obligation de manger la matzah, Lo tochal alav chametz, shivat yamim tochal alav matzot lechemoni. Vous ne mangerez pas sur lui. Donc, lorsque vous consommez le Korban Pessah, du chametz, donc du pain levé, pendant 7 jours, vous consommerez de la matzah, du pain de misère. Il y a donc ici une analogie entre la matzah et le chametz. Nous déduisons de là, Dvarim habaim lidechimut, des céréales que si on laisse fermenter deviennent du chametz, donc du pain levé. Adam yotze bahen yedechovato bepessach, une personne peut en utiliser pour se rendre quitte de l'obligation de consommer de la matzah à Pessah. Yatsu elu, seront exclus cela, le riz et le millet, chez en bahen yedechimut, que lorsqu'on les laisse fermenter, ils ne deviennent pas du chametz, du pain levé. Et là, l'idée sirachon, plutôt, ils arrivent à un stade de pourriture. Autrement dit, même si, en quelque sorte, la farine de riz ou de millet peuvent fermenter, mais le résultat ne sera pas du pain levé. Par conséquent, on ne pourra pas utiliser cette farine pour en fabriquer de la matzah. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Umitztarfin zeimze » et ces cinq céréales peuvent s'associer l'un avec l'autre. Nous remarquons que, comme nous l'avons expliqué au début de la Gemara, il ne peut pas s'agir des lois de l'obligation du prélèvement de la challah, car pas toutes les sortes de céréales peuvent s'associer. Reste donc à découvrir au sujet de quelle loi s'associent ces cinq céréales. Alors la Gemara dit, Tana, il est enseigné dans une braïta, Hatvua ve'akmachim ve'abetsekot, les céréales, les farines et les pâtes provenant de différents céréales, mitztarfim ze'ivze, peuvent s'associer l'un avec l'autre. La Gemara demande le Ma'ilcheta, pour quelle loi ces cinq céréales peuvent s'associer. La Gemara répond, Amarav Kahana, le'inyan chadash, c'est en ce qui concerne l'interdiction de consommer la nouvelle récolte. Pour avoir transgressé cette interdiction, il faut avoir consommé un volume équivalent à celui d'une olive. Nous apprenons donc ici que les cinq céréales peuvent s'associer et aussi les céréales à différents stades, donc comme les céréales, les graines, les farines et les pâtes. Rabbi Yosef Amar, l'inyan chametz ba-pessach, il s'associe en ce qui concerne l'interdiction de consommer du chametz à Pessah. Là aussi, les cinq céréales peuvent s'associer à n'importe quel stade. Et évidemment, ce n'est que ces cinq céréales qui peuvent s'associer pour ces interdictions. Rav Papa Amar, le Inyan Maaser Sheni, c'est en ce qui concerne la seconde dîme des I Achille Chutz Lachoma, que si on en consomme en dehors de la muraille de Yerushalayim, alors que cette seconde dîme ne peut être consommée que dans la ville de Yerushalayim, laquelle cette personne est condamnée à une peine de flagellation. Pour être condamné, il doit avoir consommé un volume équivalent à celui d'une olive. Nous apprenons ici que ces cinq céréales, à n'importe quel stade, peuvent s'associer. Il est vrai que le prélèvement de la dîme existe pour tous les produits de la terre. Cependant, cette obligation n'existe que midérabanan. Elle n'est minatora que pour les cinq céréales, le vin et l'huile. Donc, lorsque nous parlons d'associer des aliments, il ne peut s'agir que de ces cinq sortes de céréales. Rava Amar, le Inyan Tumat Ochlim, c'est en ce qui concerne l'impureté des aliments. Vehakamash Malan, et c'est cela que la Braïta nous enseigne, de Tvoa Ukmachim Dumia de Betsekot, que lorsque nous parlons de céréales et de farines qui s'associent pour transmettre ou recevoir l'impureté des aliments, ils doivent ressembler aux pâtes. En cela que Mahatam, de même que la balle pâte Ukhla Bene, il s'agit d'un aliment qui peut être consommé tel quel. Af hachanami, ainsi ici aussi en ce qui concerne les céréales et les farines, ukhla bene, il doit s'agir de céréales ou de farines qui peuvent être consommées telles quelles. Nous exclurons les grains d'orge dont l'enveloppe ou l'écorce n'a pas été enlevée, ou même la farine d'orge qui contient du son, car le son d'orge n'est pas considéré comme étant un aliment. Vatania, effectivement, il est enseigné, comme cela dans une braïta, chita, le blé, ben kloufa, ben shena kloufa, soit épluché, soit pas épluché. C'est-à-dire, soit si on a enlevé l'écorce extérieure, soit si on ne l'a pas enlevé, mitzarefet, elle s'associe, donc le grain de blé peut s'associer avec d'autres aliments pour former le volume d'un œuf nécessaire pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Ce aura, tandis qu'en ce qui concerne l'orge, kloufa, si elle est épluchée, donc si on a enlevé l'écorce extérieure, mitzarefet, elle s'associe avec d'autres aliments pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Chez ena kloufa, mais si elle n'est pas épluchée, si on n'a pas enlevé l'écorce extérieure, en mitzarefet, elle ne s'associe pas pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Donc, même le grain d'orge lui-même, la partie comestible du grain d'orge, ne s'associera pas, car l'écorce extérieure forme écran avec les autres aliments. Donc, le grain d'orge ne pourra pas s'associer avec d'autres aliments si l'enveloppe extérieure n'a pas été enlevée. La Gemara demande, et ni, ce n'est pas vrai, Ve'atana de Berabi Ishmael, pourtant il est enseigné dans une braïta rédigée dans le Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, qui interprète le pasouk dans Vaikra Aleph concernant la pureté des aliments. Le pasouk dit alcool zera zerua sheri zarea. Si de l'eau ou n'importe quel liquide tombe sur une graine de semence destinée à être semée, cet aliment en question sera susceptible de devenir impur par le contact d'un reptile mort, par exemple. Nous apprenons de cette formule du pasouk que derer shebna adam otsim lizria, que l'impureté des aliments concerne même les aliments qui se trouve dans la situation que derer shebne adam utzim lizria, équivalente à celle que les hommes emportent pour les semences. Chita beklipata, donc le blé avec son écorce ou son enveloppe extérieure, ou sera beklipata, et l'orge avec son écorce ou son enveloppe extérieure, ve'adashim beklipatam, et les lentilles avec leur écorce extérieure. Donc, il est enseigné clairement dans la braïta que l'orge, même si on n'a pas enlevé l'écorce ou l'enveloppe extérieure, est susceptible de recevoir ou de transmettre l'impureté des aliments. L'agma répond, l'akashia, il n'y a pas de contradiction entre la braïta que nous avons vue précédemment et celle rédigée par Rabbi Ishmael. Ha, la braïta rédigée par Rabbi Ishmael Belachot parle d'orge encore mou qui n'a pas encore entièrement séché. Dans cette situation, même l'écorce extérieure s'associe pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments, car cette écorce est une protection. La protection de l'aliment s'associe aussi pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. Ha, tandis que la braïta précédente, Beyveshot, parle d'orge sec, à ce stade, l'écorce ou l'enveloppe extérieure ne sert plus à rien, car elle se désintègre d'elle-même. C'est pourquoi, étant donné qu'il ne s'agit plus de protection, cette écorce ne pourra pas s'associer pour recevoir ou transmettre l'impureté des aliments. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Ve'asurin be'chadash » nous lisons selon la Shittah Mekoubetset, « Milifnei Omer » et ces cinq sortes de céréales sont concernées par l'interdiction de consommer de la nouvelle récolte avant le Omer. Alors la Gemara demande « Mena nemile » d'où sait-on ces choses-ci que seules ces cinq sortes de céréales sont concernées par cette interdiction et non pas les autres sortes comme le riz et le millet? L'agma répond à Maresh Lakish, Atia Lechem Lechem Mimatsa. Nous l'apprenons par le moyen d'une Xerashava, dont le support est le terme de Lechem, à partir de la loi concernant l'obligation de consommer la Matzah Pessah. En effet, le Pasuk dit dans Vaikra Kaf Gimel, concernant l'interdiction de consommer la nouvelle récolte avant l'offrande de l'Omer, de Lechem, etc., et du pain, vous ne consommerez pas jusqu'à ce jour. Et nous avons vu précédemment que concernant la matzah dans Dvarim Tetzayin, le pasouk emploie le terme de lechem. De même que pour la matzah, on ne peut qu'employer les cinq sortes de céréales, il en est de même pour l'interdiction de consommer la nouvelle récolte. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Veliktsor Lifne, nous lisons selon la Shittah Mekoubetset, HaPessah. Il est interdit de moissonner cinq sortes de céréales avant Pessah. La Gemara demande, Mena Anemile, d'où sait-on ces choses-ci, que ces cinq sortes de céréales sont concernées par l'interdiction de moissonner avant Pessah, donc avant qu'on ait moissonné le nécessaire pour l'offrande publique du deuxième jour de Pessah? La Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan, Atia Reshit Reshit Mechala, nous l'apprenons par le moyen d'une Xerashava dont le support est le terme de Reshit, à partir des lois concernant l'obligation de prélever la Chala de toute pâte fabriquée. En effet, le pasouk dit dans Vaïkra, Kaf Gimel, concernant l'interdiction de consommer dans la nouvelle récolte, Réchit Ketirichem, vous amènerez le début de votre moisson. Nous apprenons de là aussi qu'il est interdit de moissonner de la nouvelle récolte avant qu'on ait moissonné le nécessaire pour l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Et dans Bamidbar Tedvav, concernant l'obligation de prélever la challah, le pasouk dit Réchit Arisotechem, le début de vos pâtes. De même que pour le prélèvement de la challah, ne sont concernés par cette obligation que les cinq sortes de céréales, et toutes ces cinq sortes de céréales sont concernées par l'obligation. Il en est de même pour l'interdiction de moissonner avant qu'on ait moissonné le nécessaire pour l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Donc même les sortes de céréales qui ne sont pas utilisées pour cette offrande sont aussi concernées par cette interdiction. Nous avons vu donc dans la Mishnah que les cinq céréales provenant de la nouvelle récolte sont interdits à la consommation avant le Homer. La Gemara demande « Maïkodem le Homer ?» Que veut dire la Mishnah lorsqu'elle dit « avant le Homer ?» La Gemara répond « Rabbi Yonah Amar, Kodem Ktirat HaOmer » La Mishnah veut dire « avant la moisson de l'orge nécessaire pour l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. » C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'offrande publique du deuxième jour de Pessah pour consommer la nouvelle récolte, mais dès le lever du jour, cette récolte est permise. En tout cas, le commandement négatif interdisant de consommer la nouvelle récolte est levé. La Mishnah a quand même pu s'exprimer de cette manière, car des fois, la moisson de l'orge pour l'offrande du deuxième jour de Pessah est effectuée à la fin de la nuit, juste avant le lever du jour, et effectivement, immédiatement après, au lever du jour, ou plutôt au lever du soleil, la nouvelle récolte est permise. Comme l'explique le Tarat HaKodesh, la raison pour laquelle la Mishnah s'exprime de cette manière, et non pas disant clairement que la nouvelle récolte est interdite jusqu'au lever du jour du 16 Nissan, c'est parce qu'en fait, l'essentiel de l'enseignement de la Mishnah, c'est de nous enseigner d'abord que les cinq céréales, et non pas seulement l'orge, sont interdits avant le Homer, et aussi que le riz et le millet ne sont pas concernés par cette interdiction, et aussi peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'offrande de l'offrande pour que la nouvelle récolte soit permise. C'est pour cela qu'elle ne rentre pas dans les détails. Rabbi aussi Barzavda Omer, Kodem Habata Omer, ce que la Mishnah veut dire, c'est que les cinq céréales de la nouvelle récolte sont interdits avant l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Donc selon lui, le lever du soleil ne permet pas la nouvelle récolte, il faut attendre donc l'offrande de l'Omer. La Gemara demande, Nan, il est enseigné dans notre Mishnah, nous lisons selon la Shita Mukubetzet, Asurin Bechadash Lifne HaOmer Veliktsor Lifne HaPessah. Les cinq céréales de la nouvelle récolte sont interdits avant le Homer et il est interdit d'en moissonner avant Pessah. Alors la question se pose, Bishlama lemanda amar kodem avata Homer, on comprend bien cette formulation de la Mishnah qui fait la différence entre l'interdiction de consommer et de moissonner. Si la Mishnah veut dire que la nouvelle récolte est interdite à la consommation jusqu'à l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Hainu, de loka arrive lehu, vetane lehu. C'est la raison pour laquelle la Mishnah n'a pas mélangé ces deux interdictions et ne les a pas enseignées ensemble, car effectivement, la nouvelle récolte est interdite à la consommation jusqu'à l'offrande de l'Homer, tandis qu'en ce qui concerne l'interdiction de moissonner, celle-ci n'existe que jusqu'à la moisson de l'orge nécessaire pour l'offrande, donc à la sortie du premier jour de Yom Tov. Et là, le mandama kodem tzirata Homer. Mais selon l'avis qui dit que la nouvelle récolte est interdite à la consommation avant la moisson de l'orge nécessaire pour l'offrande de l'Homer, c'est-à-dire jusqu'au lever du jour, comme nous l'avons expliqué, l'Arvinu velitninu, la Mishnah n'avait qu'à mélanger ces deux enseignements et s'exprimer comme suit. Asurin bechadash veliktsor, nous lisons selon Rashi, l'Ifne Homer, que la nouvelle récolte est interdite à la consommation et à la moisson, avant le Homer, ce qui veut dire avant la moisson de l'orge nécessaire pour l'offrande de l'Homer. Puisque finalement, même pour consommer la nouvelle récolte, il n'est pas nécessaire d'attendre l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Et comme nous l'avons expliqué, la Mishnah ne rentre pas dans les détails pour définir exactement quand est-ce que la nouvelle récolte est permise à la consommation. Et de plus, la moisson de l'orge nécessaire pour l'offrande est effectivement effectuée à la fin de la nuit, juste avant le lever du soleil. La Mishnah n'avait qu'à enseigner les deux interdictions ensemble. La Gemara répond, et là plutôt, Itmar, s'il a été dit cette discussion entre Rabbi Yona et Rabbi Yossi Bar Zavda, Asefa Itmar, elle a été rédigée sur la fin de la Mishnah. Donc effectivement, le début de la Mishnah doit être compris, que la nouvelle récolte est interdite à la consommation jusqu'à l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, tandis que la moisson de la nouvelle récolte est permise à la sortie du premier jour de Yom Tov, lorsqu'on moissonne l'orge nécessaire pour l'offrande du deuxième jour de Pessah. Nous avons fini ici le shiur de Maseret Menachot Daf Ayin. Nous commençons le shiur de Maseret Menachot Daf Ayin Aleph. Nous commençons Daf Ayin Amud Bet à la cinquième ligne du bas de la page. Nous avons vu précédemment une discussion entre Rabbi Yona et Rabbi Yossi Bar Zavda concernant l'expression Lifnei Omer, avant le Omer employé dans la Mishnah. Selon un des avis, lorsque la Mishnah dit Lifnei Omer avant le Omer, cela veut dire avant l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Selon le deuxième avis, cela veut dire avant la moisson de l'orge nécessaire pour cette offrande. La Gemara a compris au début que cette discussion se rapporte au passage du début de la Mishnah qui dit que la nouvelle récolte est interdite à la consommation avant le Omer. Selon un des avis donc, la nouvelle récolte est interdite jusqu'à l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Selon l'autre avis, elle est interdite jusqu'à la moisson de l'orge nécessaire pour cette offrande, qui des fois peut être effectuée à la fin de la nuit, juste avant le lever du soleil. En fait, cela veut dire donc, comme nous l'avons expliqué, que la nouvelle récolte est permise dès le lever du soleil du deuxième jour de Pessah. Cependant, du fait que la Mishnah continue en disant qu'il est interdit de moissonner la nouvelle récolte avant Pessah, s'il est vrai que l'expression « avant le Omer » employée par la Mishnah veut dire « avant la moisson de l'orge nécessaire pour l'offrande de l'Omer », la Mishnah aurait pu rédiger les deux cas en même temps et dire que soit la consommation, soit la moisson de la nouvelle récolte sont interdits jusqu'à la moisson de l'orge nécessaire pour l'offrande de l'Omer. Forcément donc, lorsque la Mishnah dit que la nouvelle récolte est interdite à la consommation avant le Omer, elle veut dire avant l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. La Gemara poursuit, et là plutôt, Itmar, s'il a été dit une discussion à propos de l'expression Lifnei Omer, Asefa Itmar, elle a été rédigée sur la fin de la Mishnah qui dit Im Hishrishu Kodem La Omer, si le semis a pris racine avant le Omer, Ha Omer Matiran, l'offrande de l'Omer les permet à la consommation lorsqu'ils auront poussé. Mais sinon, si le semis n'a pas pris racine avant le Omer, la nouvelle récolte produite par ce semis sera interdite jusqu'à l'offrande publique du deuxième jour de Pessah de l'année suivante. Alors la question se pose, Maï Kodem la Omer, que veut dire la Mishnah lorsqu'elle dit ce qui a pris racine avant le Omer? Rabbi Yona Amar Kodem Avata Omer, la Mishnah veut dire avant l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Donc, ce qui a pris racine avant l'offrande publique du deuxième jour de Pessah sera permis par cette offrande. Rabbi Yossi Bar Zavda Omer, Kodem Ktsirata Omer, la Mishnah veut dire avant la moisson de l'orge nécessaire pour cette offrande, ce qui a pris racine avant cette moisson sera permis par l'offrande de l'Omer, mais ce qui prend racine après, même si ils ont pris racine avant l'offrande publique de l'Omer, le produit de ce semis sera interdit jusqu'à l'offrande publique du deuxième jour de Pessah de l'année suivante. Amar le Rabbi Lazar, Rabbi Lazar a dit:
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Yomi quotidiennement en vidéo.